Verisure, tellement plus qu'une alarme.
J'attends mes vacances toute l'année. Pas question de les gâcher avec un cambriolage.
L'alarme Verisure détecte les intrus avant qu'ils ne pénètrent dans votre domicile et les agents préviennent les forces de l'ordre. Rendez-vous sur verisure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Quand bien même on est mené 1-0, on a une capacité justement à revenir. On a cette foi qui est inébranlable. Découragement n'est pas ivoirien.
Hop, on s'attaque, but, élimination des Coupes d'Europe européennes.
Tu sais, un footballeur, c'est comme une poterie. Si au début, elle commence par être déformée, mais pour la reformer, c'est impossible. Elle a séché, c'est terminé.
RMC jusqu'à 22h. Génération After, Intégral Euro.
Nicolas Villas.
On est à J-2 avant le quart de finale de l'Euro 2024 entre la France et le Portugal. Et vous en doutez, ce Génération After va bien sûr se lancer déjà dans ce quart de finale. Comment les Bleus peuvent, doivent est-ils jouer sans Rabiot? Venez nous le dire, vous donner votre avis au 32-16, en débattre avec la team qui est là aujourd'hui. Un petit but sur pénalty pour Kylian Mbappé dans cet Euro. Peut-on espérer un meilleur Mbappé? Comment? Là aussi, on attend vos suggestions. Avis tranché d'Elton Mokolo. Battre l'équipe de France est le plus gros défi en foot de sélection. D'accord avec lui ou pas? On vous attend au 32-16. Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, fait n'importe quoi dans sa gestion de Cristiano Ronaldo. Ce sera l'avis tranché de Kevin Diaz. Et puis on aura un Thierry Henry très contrarié à l'approche des JO. Il a des joueurs qui ne sont pas libérés par leur club, notamment Kefren Thuram. On l'écoutera dans un instant. Et puis toutes les infos du jour, bien entendu. Ce soir avec nous, dans Génération After, monsieur Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
L'homme poterie.
Bah bien sûr. Mais ouais. J'aime beaucoup ce jingle.
C'est vrai?
Ouais. Je ne retirerai aucun mot.
D'accord, on le garde. Elton Mokolo, comment il va celui-ci?
Salut Nico, salut à tous.
Ça va?
Je vais très bien.
C'est vrai?
Ouais, je vais très bien. Ouais. Et très content de faire cette émission avec toi.
Bah écoute, plaisir partagé, je suis très content d'être avec moi aussi. Tout comme avec Ricardo Fati. Comment il va celui-ci?
Salut Nico, très bien, écoute. Comme un 3 juillet.
C'est-à-dire?
L'été, le soleil.
Bah, l'été, ouais, bien sûr.
Bien sûr. On profite.
Bien sûr. Voilà. Si vous voulez parler de météo, on vous attend en 32-16 au-dessus. À partir de 22h, lui, il ne craint pas le soleil ni la pluie. Tout glisse sur le crâne luisant de Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert.
Crème solaire quand même.
Oui, ce que j'allais dire. Plus le soleil que la pluie, non?
Ben, attention.
Ouais.
Faut qu'on alimenter sa peau.
Tu mets quoi dessus?
La crème solaire.
Non, mais genre, tu mets pas de crème au quotidien, rien?
Ah si, bien sûr.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. M'inspire des plus grands footballeurs.
Pur essentiel.
Guti. C'est Fred Hermel qui doit raconter le jour que Guti est resté pendant une heure à mettre de la crème dans le vestiaire. Je sais pas comment il le sait, Fred, il y était pas en plus.
Ouais, mais il a des infos de ouf.
Ah, c'est pour ça. Bah,
oui. Tu mets pas de crème, toi, au quotidien?
Si, mais sur le visage.
Pas sur le corps.
Non, pas sur le corps.
Ouais.
Pourquoi
par
tu voulais savoir?
Cette barbe-là. Ça fait un moment qu'on en a pas parlé.
Oui, bah vas-y, dis.
Ah, mais. Faudra que ça s'arrête un jour quand même.
Ah non, j'en profite.
Elle est déjà beaucoup moins épaisse qu'à un moment.
Ouais, c'est clair. Franchement, c'est plus épuré, non?
Ouais.
En fait, par les temps qui courent, je me dis, on va peut-être se planquer. Tu sais, ça se trouve, dans quelques jours, on va faire couper toutes les barbes du pays. Donc, j'anticipe. Voilà.
Surtout pour les binationaux.
Exactement. Voilà. On aura quoi à 22h, mon Gilbert? Ça va parler barbe ou pas?
Pas du tout.
Ça va pas être barbant d'ailleurs.
Non, pas du tout. Alors déjà, l'équipe de France, Walid Acharchour est chaud sur Griezmann. Là, il en peut plus de le voir à droite. Donc, il veut nous donner son avis sur la question. Donc on débattra évidemment de la compo de vendredi. Puis les drôles de l'âme seront là. Petit bilan des huitièmes. On se projettera vers les quarts de finale. Force, faiblesse de chacun. Et puis l'OM, gros dossier de Zerbi ce soir. Florent Germain sera là. Johan Crochet également, qui connaît bien Zozo. Donc la révolution de Zerbi à Marseille. Le mercato dingue là qui est en cours. Donc le point tout à l'heure pendant presque une demi-heure à 23h. Et puis Hamza Ramani sera là pour nous raconter le début de la Copa América, que personne ne voit à part lui, vu que les matchs sont entre 3h du matin.
Donc, et qu'il a que ça à faire.
C'est vraiment compliqué hein, parce que tu finis à 5h.
À 3h c'est dur hein.
Ouais, 3h
ça pique un peu quand même.
C'est le pire horaire.
Tu te bats pour...
Et ça donne quoi là en termes de niveau? Parce qu'on se plaint de l'euro, mais...
En termes de niveau, moi par exemple, j'ai vu le Brésil hier, c'est vraiment pas fameux.
Ah ouais. Ouais. Ça fait un moment, j'ai l'impression.
Le Uruguay et le Venezuela.
Par contre, ouais. Colombie, c'était bien. Ouais. Colombie, c'était bien. Ils ont terminé logiquement à première place. Et l'Uruguay, ouais, ça a été vraiment bien. Après, l'Uruguay Bielsa, on savait que ça serait compétitif.
Ouais.
Cela dit, habituez-vous, parce que la Coupe du Monde 2026.
Ça, c'est vrai.
Ça va être à des heures tardives.
Non, mais ils vont peut-être faire des horaires.
Ils vont pas faire les horaires selon Kevin Diaz, monsieur.
Non, mais parce qu'ils le connaissent pas. Déjà, peut-être.
Déjà,
un de mes objectifs, c'est d'être à la Coupe du Monde 2026.
Comme sélectionneur?
Écoute,
en plutôt, tant que
plutôt comme manager général d'une sélection. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Mais je trouve que ce serait un bon moyen de visiter les États-Unis. Mais sinon, quand même, quand il y a des grandes compétitions comme ça, on essaye d'avoir des horaires à peu près.
La Coupe du Monde 2014.
Pour avoir
des matchs à 14h.
La Coupe du Monde 94, c'était pas.
Ah oui, bah, c'est ça. Pour
le ah bah non, c'est dans la journée,
sous 40 degrés.
Ouais, mais t'as raison. Compliqué. Ils jouaient. Maintenant, ils font en fonction de leur public à eux, si tu veux.
Les Américains, les stades sont quasiment tous couverts et tout. Donc tu pourrais jouer à midi.
Ouais.
Bon, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci Gilbert. Et puis cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister aux demi-finales de l'Euro 2024. On vous propose de vivre l'expérience RMC avec le voyage à Munich, un vol plus hôtel, la rencontre avec les équipes RMC avant le match et bien sûr les deux places pour la demi-finale du 9 juillet. Ce sera à 21h. Dès que vous entendrez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16, Euro au 732-16. Voilà, pour remporter vos places, le voyage, le all inclusive pour la demi-finale de l'Euro 2024. Restez à l'écoute, ça peut tomber n'importe quand. Et en attendant, nous, on va se projeter sur le quart de finale de vendredi à 21h à Hambourg entre la France et le Portugal. Didier Deschamps qui devra faire son Adrien Rabiot suspendu. Alors hier, lors de l'entraînement ouvert à la presse, ça c'est les infos RMC Sport, Didier Deschamps a longuement échangé avec Youssouf Fofana. Alors, est-ce que c'est un indice sur sa possible titularisation ou pas? Autre possibilité qui est fort probable, elle aussi, c'est Kamavinga qui pourrait jouer au milieu de terrain. Ou alors, possibilité de mettre Griezmann plus dans l'axe, au milieu. Du coup, on aura le retour de Dembélé dans le couloir, avec Mbappé a priori à gauche et dans l'axe, ça c'est à voir. D'ailleurs, tout à l'heure, on reviendra sur l'attaque des Bleus. On vous attend au 32-16 pour notamment évoquer Kylian Mbappé. Question qu'on vous pose, comment jouer sans Adrien Rabiot? On vous attend au 32-16. Qui veut commencer, les gars? Ouais. Comment on joue sans Rabiot? Vas-y, Ricky.
Bah, connaissant Deschamps, je pense que ça va être du poste pour poste, malheureusement. Moi, je pense que bon, on sait tous, Rabiot, c'est un joueur qui a pris une très grosse dimension depuis quelques années. On le voit aussi à la Juve, c'est devenu un leader. Il est en fin de contrat, donc forcément, il a aussi envie de se montrer. Et on le voit, il est beaucoup plus mature. Il est vraiment important dans l'effectif, dans le collectif de Deschamps. Après, on a un groupe de 26, hein, on a un groupe de 25. Donc après, mais malheureusement, comme j'ai dit au début, Deschamps, ça va être du poste pour poste.
J'avais
dit en début de compétition, j'ai envie de voir plus d'audace, plus de force offensive chez les Bleus. Malheureusement, bon, j'ai pas été entendu. Mais moi, je verrais une animation, on va dire un peu plus basique, mais plus offensive, avec deux doubles pivots qui sont Tchouaméni et Kanté, qui peuvent faire le travail dans la récupération sans problème. À la récup, et puis remettre Dembélé à droite, et puis après à gauche, ça va dépendre de la forme du moment. Peut-être ça peut être, pourquoi pas Barcola, pourquoi pas, forcément, ça va être Kylian, et Griezmann derrière qui tourne autour de Thuram au pivot.
En faux 10, quoi.
Voilà, en faux 10, en totale liberté, en électron.
Mais tu penses qu'il va faire ça, Deschamps?
Bah, j'aimerais, bien sûr. Mais comme je te l'ai dit au début, malheureusement, je pense que ça va être poste pour poste et ça va être frileux.
Ouais. Elton?
Après, aujourd'hui, il y a une idée pour Didier Deschamps. La formule des milieux de terrain, le milieu de terrain renforcé te rapproche plus de la victoire que la formule avec les trois offensifs. Et pour le coup, difficile de dire que les offensifs en question ont donné satisfaction, parce que c'est le gros problème de l'équipe de France, cette incapacité justement à être décisif devant. Et à partir du moment où t'es pas décisif, et d'ailleurs t'as un cas qui est symbolique, Ousmane Dembélé qui est sorti du 11 et qui n'a pas été aligné face à la Belgique, qui n'est même pas rentré en jeu, et bah du côté de Didier Deschamps, dans la perspective du quart de finale, et bah il va continuer avec cette formule du milieu de terrain. Maintenant,
il y a... Mais tu penses qu'il mettra qui, toi?
Moi, je pense qu'il mettra Kamavinga.
Okay.
Je pense qu'il mettra Kamavinga parce que Kamavinga, et en plus moi c'est une option qui me plaît, une option qui m'intéresse, parce que Kamavinga, alors c'est vrai que parfois tu balances la pièce en l'air avec Kamavinga, mais lui il a cette prise d'initiative individuelle qui manque à l'équipe de France. Parce que pour moi c'est une équipe qui a une approche beaucoup trop scolaire, voire une approche qui peut être qui est très compliquée, mais par rapport à ça, Kamavinga est capable de changer de rythme, il est capable d'apporter quelque chose de frais, de dynamique, qui peut aider l'équipe de France.
Kevin, tu dis quoi toi? Il n'y a pas Rabiot demain. C'est marrant parce que je pense qu'il y a encore deux ans, on aurait dit ça, on aurait dit, ouais, il est où le problème de ne pas avoir Rabiot? Ouais. C'est devenu un taulier, ce mec-là. Tu penses qu'il fera quoi, Deschamps? Et toi, tu ferais quoi à la place de Deschamps?
Je pense que Deschamps... Alors, il y avait deux solutions, honnêtement, pour vous dire la vérité. Hier, j'aurais plutôt dit qu'il allait mettre Fofana pour avoir un joueur de plus costaud au milieu. Mais en tout cas, celui qui se rapproche le plus d'Adrien Rabiot, ça reste quand même Kamavinga. Parce qu'il est gaucher, parce qu'il joue quand même au Real Madrid, parce qu'il est titulaire en finale de Ligue des Champions. Il a quand même beaucoup de caractéristiques qu'aime beaucoup Didier Deschamps. Ensuite, c'est vrai, comme dit Elton, que Kamavinga, il a cette capacité à quand même pouvoir se projeter, à être créatif, voire même à frapper au but. Il a mis un but contré, je crois que c'était en demi-finale de Ligue des Champions. Donc les buts contrés en ce moment, c'est un peu la marque de fabrique de l'équipe de France. Donc je dirais pas que Didier Deschamps va jusque là, mais presque. Mais en tout cas, ça reste un joueur qui est très très intéressant. Et je lis ce soir que c'est peut-être le favori pour remplacer Adrien Rabiot. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait aussi plutôt mon choix. Moi, honnêtement, ça y est, on est en pleine compétition. On a parlé de Didier Deschamps depuis 10 ans maintenant. Je pense plus du tout comme Ricardo qui est nouveau dans le métier, qui espère encore qu'un jour on verra
dans le game,
qu'il espère encore voir une équipe de France plus alléchante, plus offensive. Non, ça c'est terminé. C'est aux oubliettes. Il s'est encore félicité d'avoir un Jules Koundé qui est excellent alors qu'il a été critiqué. Mais en tout cas, je pense pas qu'il va changer de fusil d'épaule maintenant.
Il va aller. Mais aujourd'hui, Kevin, il faut être plus compétitif, qu'audacieux, pour reprendre les mots de Ricardo, parce que c'est la vérité, c'est la réalité de cette équipe de France, à savoir qu'à partir du moment t'es sur quelque chose d'inédit, à savoir que t'es en panne sèche de but, parce que pour la première fois depuis que Didier Deschamps est en équipe de France, l'équipe de France arrive sur un match 5, donc quart de finale Coupe du Monde Euro, avec seulement 3 buts, alors que
la moyenne, un pénalty, un CSC,
exactement, voilà. Alors que
deux CSC, bon.
Alors que traditionnellement, et c'est quand même paradoxal, ouais, quand on parle d'une équipe de France de Didier Deschamps, la moyenne c'était entre 6 et 10, et donc là on est à 3, c'est moitié moins par rapport à 6, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué pour l'équipe de France d'avancer. Et en gros, dans l'esprit de Didier Deschamps, on va se dire que la solidité va te permettre de te rapprocher,
oui,
de la victoire.
Oui, et puis il y a pas que ça, il y a la phrase dont parlait Daniel hier dans l'after, où il disait il va finir par y en avoir une. Mais en fait, c'est clairement l'état d'esprit d'Didier Deschamps. On reste solide et il va finir par en avoir une. Mais ouais, aujourd'hui, force est de constater que ça marche. Ça marche parce que les équipes, en fait, l'équipe de France est rentrée dans la tête des équipes adverses. Et aujourd'hui, que ce soit la Belgique,
parce que toi tu vas en parler après de ça.
Que ce soit
un petit teaser. Là. Ouais.
que ce soit la Belgique, et surtout, Nico et moi, on connaît bien en tant que franco-portugais, mais c'est clair, les Portugais, ils ont peur de la France. Les Hollandais, ils ont peur de la France. Les Allemands, les Espagnols, tout le monde a peur de la France. Parce qu'on sait qu'on n'est pas beau à voir jouer, mais on sait qu'on est très très dur à voir jouer, à jouer. Et donc quasiment imbattable sur les 10 dernières années en compétition, en match à élimination directe, en tout cas dans les 90 premières minutes.
C'est un peu l'approche, moi, qui me dérange. Moi, j'ai vraiment envie qu'on s'adapte aussi un peu à l'adversaire pour pouvoir les contrer, pour pouvoir les contrarier. Moi, je pense que justement ce système en 4-2-3-1 avec deux vrais ailiers et Griezmann entre les lignes peut vraiment perturber l'animation portugaise, parce qu'on les connaît maintenant, Cancelo, Nuno Mendes, qui sont très offensifs.
Ah, ils vont vouloir avoir le ballon en plus.
C'est ça. Moi, je pense que ce soit même pour nous, peut-être, pourquoi pas en transition, ou même dans des attaques assez placées sur les côtés, des 1 contre 1, tout ça, avec les latéraux qui sont très forts offensivement, mais très moyens défensivement. J'ai envie de voir des choses, mais encore une fois, je pense pas.
Aujourd'hui, il y a la théorie et il y a surtout la pratique. Parce que autant en qualification, il y avait des éléments de satisfaction, autant sur la réalité d'un tournoi final, forcément, cette Formule à 3 offensive n'a pas donné satisfaction, parce que encore une fois, tu subis le fait que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne sont pas bons individuellement et qu'Ousmane Dembélé a trouvé le moyen d'être mauvais. Donc forcément, Didier Deschamps auront trouvé des solutions, notamment Barcola. Il a testé sur le match contre la Pologne. Visiblement, il n'a pas nécessairement donné satisfaction, alors que pour moi, il m'a donné satisfaction. Donc il va revenir sur son idée, la France des milieux de terrain.
Ouais, les gars, on poursuit le débat dans un instant. On sera avec Hichem qui nous a appelé au 32-16. Comment les Bleus doivent jouer sans Rabiot face au Portugal, le quart de finale? Est-ce qu'on peut espérer mieux de Kylian Mbappé également? Et puis on aura également l'avis tranché d'Elton qui nous expliquera que battre l'équipe de France aujourd'hui, le plus gros défi du football en sélection. Teasing. Et puis de Portugal également, si vous voulez parler de Cristiano Ronaldo et de la gestion de Roberto Martinez, ce sera l'avis tranché de Kevin Diaz. À tout de suite sur RMC.
Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 32-16, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio.
RMC jusqu'à 22h. Génération After, Intégral Euro.
Nicolas Villas.
Avec Ricardo Fati, avec Kevin Diaz, Elton Mokolo, avec vous également au 32-16. Vous êtes nombreux sur le chat de la chaîne YouTube de l'After Foot. On vous remercie d'être avec nous. On est en plein débat. Équipe de France, les Bleus qui affronteront le Portugal dans 2 jours. Ce sera le quart de finale de l'Euro. On sera avec Hichem dans un instant. Juste avant ça, les gars, il y a le deuxième tour de Wimbledon qui se joue aujourd'hui. Et on a envoyé en Angleterre notre Eric Salio Good evening, comme dirait Unai Emery. Comment il va, Eric?
Good evening, everybody. Comment ça va, les
How
amis?
How are you? Very fine, and you?
Ça va, Eric. Good evening. C'était une journée un peu fleuve, hein. Je vais essayer de rien oublier parce que, en fait, on avait pris un peu de retard hier. Donc, il y a eu des premiers tours avec 3 victoires françaises. Quentin Alice, Arthur Hinderknecht et Lucas Pouille. Il y a eu aussi une qualification pour le 3e tour, celle de Hugo Humbert, qui jouera donc Nakashima dans 2 jours. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Lucas Pouille qui jouera Kokkinakis demain. Kokkinakis qui vient d'éliminer à l'instant Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 17. Et donc, le cours numéro 2 est libre pour le choc des vieux, entre guillemets, hein, bien sûr. Stan Wawrinka et Gaël Monfils. Mais chez nous, il est 19h18. Mais le cours 2 est très glissant déjà. Je pense qu'ils vont pas jouer très longtemps. Mais sur le central, j'ai un vrai match avec le toit, l'éclairage. Ah. C'est le derby transalpin entre Yannick Sinner et Matteo Berrettini. C'est parti depuis une vingtaine de minutes et il y a 4 jeux partout. Ça, c'est un sacré match.
Merci beaucoup, Eric. Et tu reviens quand tu veux. On revient vers toi tout à l'heure pour prendre des nouvelles de ce deuxième tour de Wimbledon. On va accueillir Hichem, les gars, pour le débat équipe de France. Il nous a appelé pour évoquer la question qu'on posait. Comment remplacer Adrien Rabiot face au Portugal? Salut, Hichem.
Salut tout le monde, bonsoir.
Ça va, Hichem?
Salut, Hichem.
Ça va, nickel, et vous?
Ça va. Bon, tu fais quoi dans 2 jours à la place de Dédé en l'absence de Rabiot?
Franchement, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Ricardo au début de l'after. Donc moi j'aimerais voir un peu plus de créativité. Après on va nous dire c'est vrai, c'est Deschamps, ça fait 12 ans, c'est toujours pareil. Mais franchement, moi si je mets Kamavinga, je ne mettrais pas Griezmann. Moi j'ai vraiment pas envie de voir un milieu à 4... comme les derniers matchs, en fait, j'ai envie de voir plus de buts, plus d'animation offensive. On n'a quasiment pas marqué, comme vous l'avez évoqué. On a marqué un but sur penalty, 2 CSC. Donc voilà, franchement, moi, soit je mets Kamavinga, mais je ne mets pas Griezmann. Ou sinon, je laisse Tchouaméni avec Kanté si je mets Griezmann, mais je mets un peu plus. J'aimerais bien voir plus, un peu plus Barcola. Coman également, qu'on n'a pas beaucoup vu. Je crois qu'il a fait une seule apparition.
Alors Coman, lui, c'est un cas, c'est bizarre, lui.
Franchement, on a vu sur, en plus, en interview, il dit qu'il se sent bien, qu'il aimerait apporter quelque chose. Donc voilà, j'aimerais vraiment voir plus des joueurs offensifs et sortir un milieu de terrain qui ont pour moi presque tous le même profil. Après... Enfin, à peu près le même profil. Donc du coup, franchement, j'aimerais voir un Deschamps qui prend un peu de risque. Ou à la limite, comme je disais, sinon, vraiment, si on met Kamavinga, mais on ne met pas Griezmann.
Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a bien évidemment envie de voir une équipe plus pétillante, entre guillemets. Après, Kevin l'a bien répété, Elton aussi. Voilà, prime à la solidité, prime, on va dire, au pragmatisme de Deschamps. Et juste une petite parenthèse, Nico, parce que, bien évidemment, on lit aussi les commentaires hein, sur le chat. Quelques personnes ont dit comme quoi la France ne fait pas peur, arrêtez de vous fourvoyer. Kevin l'a bien dit, on le redit. Moi, je peux te le dire en tant qu'ancien joueur. Une équipe solide, une équipe qui arrive à gagner malgré on va dire ce manque de créativité, ce manque de jeu. Crois-moi, elle fait peur aux équipes. Et franchement, oui, l'équipe de France, en effet, elle fait peur. Mais c'est pour cela, on va encore une fois laisser ça entre les mains de Dédé. Et nous, on va pas subir, parce que c'est trop dur de le dire, subir. Mais on va attendre et on va voir.
On subit quand même un peu en voyant le match de l'équipe de France. Ouais. C'est vrai qu'on fait peur, il n'y a pas de souci. Mais on subit quand même parce qu'on est frustré. Moi, personnellement, même après les victoires, on est un peu frustré parce qu'on aimerait voir du jeu avec les qualités qu'il y a dans cette équipe de France. On aimerait voir un peu plus de beaux jeux. Et du coup, c'est vrai qu'on subit quand même. Là, si par exemple, il nous repart sur un milieu de terrain plus Griezmann, moi, personnellement, je serais déjà frustré dès le début de match. Je me dis, ça va être encore un match solide, un match pour les défenseurs, un match. On va atteindre un petit but venu de nulle part ou ça va se finir au penalty. Donc, alors qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut vachement faire.
Ouais, mais du coup, Hichem, je peux te poser une question directe. Dis-moi. Est-ce que l'ajout d'un offensif, ça te garantit une meilleure expression sur le plan offensif?
Non, pas forcément. C'est une prise de risque.
Bah oui, mais. La prise de risque, faut privilégier aussi la compétitivité parce qu'en fait c'est l'éternel problème. On a tout essayé, j'ai le sentiment du côté de l'équipe de France sur ce début de tournoi, on a essayé cette formule avec les offensifs, ça a pas marché et du coup on est reparti sur un autre système qui n'a pas nécessairement non plus marché parce que tu n'as pas gagné. Et quand bien même t'as été solide, et du coup du côté de l'équipe de France, pour moi c'est la première fois que j'arrive sur un tournoi de l'équipe de France sur un chantier offensif de telle ampleur, t'es dans une impasse.
Ah mais tu vois, je pense que le match moi qui à mon sens hein. pose le moins de questions à Didier Deschamps depuis le début de l'Euro, c'est celui-là. Parce qu'il sait que pour la première fois, il va avoir une équipe qui veut avoir le ballon, qui va avoir le ballon. Et finalement, de se dire, si je mets que des mecs défensifs au milieu de terrain, que je joue vraiment le contre, vraiment à la caricature de ce que Deschamps a pu lui proposer parfois, pour lui, c'est le plan idéal. Hein. Lui, il va être là, il va bétonner, il va attendre, ça va partir en contre, et il attend que ça, je pense, Dédé.
Et puis, de toute façon, moi, je le dis, je le répète, mais on peut mettre n'importe quel système en place. Hein. Si derrière, il n'y a pas l'animation qu'il faut,
exactement.
Si derrière, tu peux mettre 2, 3, 4, 5 offensifs, si derrière les joueurs
tu l'as vu le cas avec la Belgique qui a mis 5 offensifs pour ce qu'ils ont fait, ça a été complètement raté.
Si le gars il sait pas où courir, si le gars il sait pas dans quel espace quel espace il doit libérer, et surtout quel est le joueur qui doit prendre cet espace, et on le sait, c'est pas une critique, je pense que c'est un fait établi. L'équipe de France du Didier Deschamps, les attaquants jouent à l'instinct d'un Griezmann au prime entre 2016 et 2020, ensuite entre 2018 et 2024. Maintenant, on attend un exploit de Kylian Mbappé ou éventuellement d'un autre. Mais sinon, on est bien en place. Et comme dit Daniel, je répète, il va y en avoir une.
Ouais, mais il s'en est jamais caché, Deschamps, parce qu'il a toujours dit que l'animation, c'est les joueurs qui la définissent, et qu'en gros, le talent est plus important que le système, que le tableau noir.
C'est aussi beaucoup plus facile pour l'entraîneur.
C'est aussi beaucoup plus facile pour l'entraîneur de dire que le
talent va régler le problème, et que c'est pas l'entraîneur qui est au tableau noir, ou en étudiant l'adversaire, ou à partir du moment où t'as un tel réservoir de joueurs, tu peux considérer que c'est le talent qui va régler le problème. Par contre, si t'es sélectionneur de la Slovénie, de la Slovaquie, le talent, il va pas te faire régler le problème. Donc il va falloir que tu proposes autre chose. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui l'équipe de France, c'est une équipe qui fait peur quand même, ça c'est sûr, et elle fait peur par sa solidité, parce que c'est une équipe qui a peut-être le meilleur gardien de la compétition quand il est à 100%, ou j'en suis même persuadé, quand il est à 100%, qui a une énorme charnière centrale, ouais. Notamment avec Upamecano qui est bon depuis le début, et Saliba qui est peut-être le meilleur défenseur d'Angleterre sur la dernière saison, Koundé qui est quand même
d'ailleurs,
un
joueur, je pense que tu auras les deux meilleurs défenseurs de PL face à face, hein. Entre lui et Diaz, Ruben Diaz en face, ouais, les Saliba, Ruben Diaz, t'as quand même.
Donc voilà, après au milieu de terrain, t'as un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du foot en la personne d'N'Golo Kanté. Quand il est apte à jouer, c'est clair pour moi. En tout cas, sur les 20 dernières années, il n'y a pas de débat. T'as un Adrien Rabiot qui est excellent, et t'as Antoine Griezmann qui est un joueur très très polyvalent, accompagné d'un Aurélien Tchouaméni qui joue quand même au Real. Et sinon, c'est un autre joueur du Real en la personne de Camavinga. Donc une fois que je t'ai égrené comme ça, 80% de l'équipe. Ah, tu te dis que, en effet, être bien en place et attendre le talent de joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde à leur poste, ça peut suffire. Parce et ça suffit gros, depuis, gros, depuis 12 ans, ça suffit en tout cas.
Ouais, mais parce qu'en gros, on était dans une situation où à l'entrée de la surface, t'as eu énormément de spots. Et en fait, en étant dans cette situation basique, tu dis que la probabilité d'avoir un tir dévié, d'avoir un CSC, elle va arriver. Parce que, en gros, t'es toujours dans une situation où t'es dans l'initiative et t'es dans les derniers mètres adverses. D'ailleurs, et c'est ce qui s'est passé.
D'ailleurs, je vous donne une stat, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a un journaliste anglais qui a donné les XG des 8 équipes qui sont qualifiées en quart de finale de 7 euros. Et par exemple, la France et le Portugal ont exactement le même nombre d'XG. C'est 4,3 depuis le début de la compétition. Donc c'est quand même assez. On pourrait se dire finalement l'équipe de France est moins
classée à quel niveau ?
Alors c'est ça que je vais vous le donner tout de suite d'ailleurs. C'est assez marrant parce que il y a les deux parties de tableau, vous savez, donc la partie forte, on va dire, où il y a Espagne, Allemagne, France, Portugal. Espagne 5-6 de XG, Allemagne 4-7, France, Portugal 4-3. Dans l'autre partie des quarts de finale, Pays-Bas 2.5, Suisse 1.3, Angleterre 0.4, Turquie -1.3. C'est-à-dire que t'as vraiment, en gros, t'as deux compètes dans la compète, quoi. C'est ouf quand même de voir ce truc-là. C'est rigolo.
Ça veut dire que la Turquie a marqué plus de buts
à la vue de la qualité des actions qui sont
contrées. Ça veut dire aussi qu'il y a plus de qualité et de talent d'un côté. En tout cas, quand tu vois le nombre de buts marqués par l'équipe de France, ils sont bien en dessous.
En sous-performance.
C'est en sous-performance. Et le truc, c'est quand même que l'équipe de France domine. Et un peu comme le Portugal, par exemple, le Portugal s'est heurté à des blocs très bas. Donc forcément, quand il y a un bloc très bas, il y a des XG qui sont moins hauts, puisque t'as souvent le ballon, mais quand tu tires, t'as 11 mecs devant toi. Et alors que quand tu joues en contre-attaque, souvent, ça peut être des face-à-face ou des choses comme ça.
Hichem, merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, merci les gars, bonne soirée.
Merci, tu reviens quand tu veux, Hichem. Voilà.
Merci, c'est
là. Bisous, ciao Hichem. Dans un instant, dans un instant, on va parler de Kylian Mbappé. Peut-on espérer un meilleur Kylian Mbappé ? Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses qui ont été dites, hein, il joue avec le masque, ça le gêne, c'est horrible, a-t-il dit. On écoutera d'ailleurs Guy Stéphane, l'adjoint Didier Deschamps, qui s'exprimait là-dessus en conférence de presse aujourd'hui. On vous attend avec Elton Mokolo, avec Kevin Diaz et avec Ricardo Fati sur RMC. À tout de suite.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne,
RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, 20h-22h, Génération After, Intégral Euro,
Nicolas Villas.
20h29, vous êtes sur RMC, merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à minuit, comme d'habitude, le 32-16 est ouvert, le chat de la chaîne YouTube de l'After Foot également est là. On est en train d'évoquer, de se lancer dans le quart de finale de l'équipe de France de vendredi face au Portugal, ce sera Hambourg, coup d'envoi à 21h. Rabiot sera suspendu, on vient d'en débattre, on vous a posé la question, comment l'équipe de France doit jouer sans Rabiot. Il y a aussi des doutes sur l'animation offensive des Bleus face aux Portugais. Alors l'absence de Rabiot pourrait conditionner le positionnement de Griezmann, on l'a évoqué tout à l'heure. Le retour de Dembélé dans le couloir, avec Mbappé à gauche ou dans l'axe, voilà, c'est l'une des possibilités. Du coup, dans l'axe, possibilité Colomouani ou Thuram. Et la question derrière ça, c'est peut-on espérer un meilleur Mbappé? Alors, il est gêné par son masque, il a marqué son pénalty face à la Pologne, c'est vrai. Et Guy Stéphane était en conf de presse aujourd'hui et il a défendu Griezmann, le jeu des Bleus, et Kylian Mbappé.
Alors Kylian, je pense qu'on a un peu tous minimisé son traumatisme, sa fracture du nez. Ça n'explique pas tout, je suis d'accord. Mais le choc qu'il a eu, il est très traumatisant. Et il joue actuellement avec un masque. Pas facile de jouer avec un masque, sinon tout le monde jouerait avec un masque. Il a eu une fin de saison un peu éreintante peut-être. Mais Kylian reste Kylian. Kylian, c'est, je ne vais pas vous raconter tous les buts qu'il a marqués, le nombre de buts qu'il a marqués. Depuis l'Euro 2021, je crois qu'il est quasiment à un but par match avec nous. Ça reste un joueur top, top, top niveau. Il est très présent, très rassembleur dans tout ce qu'il peut amener dans la préparation.
Alors on a fact-checké pour regarder cette fameuse stat qu'évoquait Guy Stéphane, et il a raison. Depuis l'Euro 2021, en équipe de France, Kylian Mbappé, c'est 31 buts en 34 matchs. Oui, mais l'année où il est le moins performant, c'est la dernière. C'est-à-dire que là, il a marqué 2 buts sur les 7 derniers matchs avec l'équipe de France. Est-ce qu'on peut espérer un meilleur Mbappé? Alors certains diront que c'est des excuses. Moi, je dirais que c'est plutôt des explications. Mais c'est vrai que ce que dit Stéphane, à savoir le masque, etc., c'est des choses qui peuvent expliquer peut-être le fait qu'il soit moins performant.
Nico, au final, moi, je dois écouter qui? Je dois écouter Guy Stéphane ou Kylian Mbappé?
Parce que lui, t'as dit qu'il allait bien.
Non, mais parce que Kylian Mbappé, avant le match contre la Belgique en conférence de presse, il nous explique, il nous dit clairement que le masque ne sera pas une excuse.
Non, mais il a dit que c'était horrible de jouer avec aussi.
Oui, c'était horrible, mais il nous mais a alors, dit que...
C'est pour ça que je te dis, c'est pas une excuse, c'est une explication.
Mais d'accord, donc à ce moment-là, on fait quoi? On met Kylian Mbappé sur le terrain ou on ne le met pas? Parce que si c'est une question qui est légitime, c'est une explication qui est légitime, et je l'entends parfaitement, bah à ce moment-là, on se passe de Kylian Mbappé. Mais on peut pas le faire. On peut pas le faire parce que Kylian Mbappé, à côté, il te dit, ça ne servira pas d'excuse. Donc aujourd'hui, moi, je veux bien que Guy Stéphane avance cette explication, mais excuse-moi. Quand Kylian Mbappé, il demande le ballon arrêté toute la rencontre, c'est pas une question de masque, c'est une question de mentalité. Et ça, j'ai pas attendu Kylian Mbappé avec un masque pour le voir. Je l'ai vu toute la saison du côté du PSG. J'ai pas vu Kylian Mbappé faire un appel dans le dos de la défense adverse. Donc c'est pas pour expliquer aujourd'hui que le masque conditionne grandement son match.
Les masques tombent, les gars, ce soir. Tu dirais quoi, toi? C'est vrai, est-ce que Elton, il a pas raison quand il dit que finalement il est peut-être dans la continuité de sa saison aussi avec le PSG?
Non, moi je pense que c'est entre les deux. C'est entre les deux. Kylian Mbappé, il a connu une saison tronquée, on le sait. Aujourd'hui, je sais que j'ai pas toujours été tendre avec Kylian Mbappé, mais ça reste un joueur, comme l'a dit Guy Stéphane, de classe mondiale quand il est prêt. Malheureusement, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, et maintenant, au niveau de sa vision, moi je l'avais trouvé très bon avant de se blesser contre l'Autriche. Je l'avais trouvé assez frais, il s'était créé des occasions, certes il n'avait pas marqué, mais qu'il semblait parti sur un très très bon euro. Maintenant, je pense quand même que cette blessure au nez l'a clairement freiné. Donc c'est clairement pas son année. Donc il a quand même marqué beaucoup de buts en Ligue 1, mais c'est vrai que moi son attitude de vouloir avoir tout le temps les ballons dans les pieds, de vouloir faire du, je sais pas si on peut dire qu'il fait du Neymar, mais en tout cas moi déjà j'ai jamais compris pourquoi il voulait le numéro 10. Pour moi, j'attache énormément d'importance au numéro que tu choisis. Pour moi, Kylian Mbappé ne sera jamais un numéro 10, je ne comprends
plus,
même.
C'est plus ta symbole.
Non, il y a pas de symbole. C'est ton numéro, c'est position. Pas ton numéro. Pour moi, c'est pas son numéro.
C'est quoi ton numéro, toi?
Moi, mon numéro, c'est le 11. Il est gauche, c'est le 11.
Et toi, Ricky?
Moi, c'est le 14.
Parce que t'es remplaçant?
Remplaçant, mais Thierry Henry aussi, surtout.
Tu mets quoi, Elton, toi?
Moi, c'est le 14.
Toi aussi? Mais là, il y a bagarre.
Le numéro des puristes.
Il y a bagarre.
Au CAP Charenton, j'avais le 14.
Ah ouais, bah ok, ça arrive.
Tu vois.
Ouais.
Donc non, mais je veux dire tout simplement que Kylian Mbappé, ça reste un joueur qui a été en difficulté cette saison avec son club, que ce soit sûr, mais surtout en dehors du terrain, et qu'il a été sur un très bon euro avant de se blesser. Ce n'est pas une excuse, mais moi j'entends que le masque, ça doit être insupportable, surtout pour un joueur quand même qui a besoin d'avoir une vision parce qu'il va 2000 et donc que c'est très très compliqué de voir ce qui se passe autour. Maintenant, c'est clair que le Kylian Mbappé qu'on a là, c'est pas le Kylian Mbappé d'il y a encore 12 ou 14 mois quand il n'avait pas eu ses problèmes en club.
Il y en a un qui est d'accord avec toi sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, Elton. C'est Mani qui nous dit faut arrêter avec le masque Mbappé dans la continuité de la saison au PSG. Tu dis quoi toi, Ricardo?
Alors oui et non, alors c'est vrai, c'est une réponse assez chiante,
mais c'est convenu.
Mais ouais, mais c'est la vérité.
Mouille-toi un peu, Ricky.
Non, mais Nico, sincèrement, moi franchement, je peux vous le dire, jouer avec un nez cassé, jouer avec des problèmes au nez, crois-moi, c'est très très compliqué.
Oui, mais alors comme dit Elton, si vraiment c'est pas bon et qu'il est pas bon, bah on le met pas. Alors non.
Après c'est Kylian.
C'est Kylian. Mais c'est pas Kylian.
Il ne peut pas ne pas jouer.
Mais c'est pas Kylian.
Aujourd'hui la question se pose.
Forcément, mais après Kylian sur le terrain, c'est vachement différent que qu'un autre joueur. Même s'il est amoindri. Après Kylian, il a aussi des responsabilités. Il se doit d'être sur le terrain, bien évidemment, tant qu'il soit performant. Mais ok, c'est pas une excuse. On peut le dire. Il y a pas de souci. Mais le fait de jouer avec un masque, avec un nez dégommé, je te promets que c'est très très compliqué. Si ce n'est vrai que pour la respiration, c'est
atroce. Mais alors on fait quoi alors?
Non, mais après il doit jouer. Mais après oui, après mon côté oui, c'est vrai que Eton l'a bien résumé. Kylian, il a maintenant adopté un style de jeu qui n'est pas compatible en fait avec même ses qualités, avec ce qu'il peut apporter. Maintenant, il est trop lisible dans son jeu. Et c'est ça le gros problème. Il n'est pas vraiment dans l'axe, il n'est pas sur l'aile, sur le côté pour provoquer. Il est dans une sorte de demi-espace, une zone de densité très compliquée. Et puis, comme forcément, avec le style de Deschamps, on est à la recherche de l'exploit
continuellement.
Ouais. Constamment avec Kylian, donc forcément on est frustré et lui-même se frustre aussi. On le voit aussi forcer son jeu et il retombe dans les travers lui qu'on a vu au PSG post Neymar, post Messi, parce que c'est lui qui avait tout sur les épaules, qui est surperformé et ça retombe malheureusement sur lui.
On va accueillir Anthony qui nous a appelé au 32-16. Salut Anthony.
Salut à tous.
Anthony porte quel numéro lui du coup?
Salut Anthony.
C'est quoi ton numéro, Anthony, au foot, toi?
C'est quoi mon numéro? Ah, moi, c'est le numéro, plutôt numéro, ouais, entre 6 et 8. Plutôt
boxe. Il est là, toi. Il est dans le cœur du jeu, là, Anthony.
Ouais, du coup, t'es un numéro 7. Un peu à la Gattuso, quoi.
Comment on dit, un téléquartiste, non, c'est ça, non? Non, c'est plus offensif, ça, non?
Régista,
c'est ça, cherche.
6 et 8, c'est le 7, non?
Excellent. J'aime beaucoup ça. Entre 6 et 8, c'est 7. J'aime bien.
Pragmatique.
Alors comment tu le trouves, Kix, là? C'est quoi le problème?
En fait, enfin, je pense qu'il y a plusieurs explications. Évidemment, ça date pas cet euro-là. On voit bien que depuis 7-8 mois, il y a un problème. Même au PSG, il avait un problème. Je trouve que c'est plutôt une crise de confiance, en fait. Et je pense que ça s'explique par plusieurs choses. Bon, déjà, on va parler de son extra sportif avec Nasser, tous ces problèmes-là. Mais je trouve que dans le jeu, je vais pas mettre la faute sur les partenaires, mais je trouve que il manque de bons ballons. Et autant à l'époque, quand et je veux pas revenir sur l'époque Messi, etc., mais il y avait quand même des joueurs qui étaient capables de lui donner les bons ballons dans le bon tempo, dans le bon espace. J'ai l'impression que cette année au PSG, il y a une faillite de ce côté-là. On avait bien sûr des Dembélé, des Barcola qui étaient capables de déborder, qui étaient capables d'apporter le danger, mais dans l'avant-dernier geste, dans les passes décisives, il n'en a pas eu beaucoup à se mettre sous la dent. Et donc forcément, il a eu quelques petits ballons où il a raté, du coup ça le met en manque de confiance. En équipe de France, j'ai l'impression que c'est un peu le même problème. En Antoine Griezmann, c'est quand même son rôle aujourd'hui, il est complètement lui aussi pour le coup, lui je sais pas, ça doit être un déficit physique aujourd'hui, mais je trouve qu'il manque de bons ballons et les peu d'occasions qu'il a, il les rate. Ce qu'il rate contre l'Autriche l'autre jour, pour moi c'est pas un problème technique, évidemment il est capable de la mettre 10 fois, peu importe, à gauche, à droite, fermé, ouvert, mais je trouve que c'est clairement un problème de confiance.
Anthony, après c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que pour avoir les bons ballons, il faut aussi faire les bons appels.
Exactement.
Et si Mbappé, il demande les ballons constamment dans les pieds, ou constamment vouloir combiner, ou chercher l'exploit, forcément, c'est plus la même chose, c'est plus la même animation naturelle qu'on voit.
Mais t'as dit un truc tout à l'heure, et on en a beaucoup débattu au cours de la saison quand il était au PSG, Kylian Mbappé, mais est-ce que son jeu, il n'est pas en train d'évoluer aussi? Est-ce qu'il n'a pas du mal, finalement, à prendre un virage où il est peut-être moins explosif qu'il était à un moment? Il y en a qui ont su le faire. Messi l'a fait d'une certaine façon, Cristiano Ronaldo l'a fait aussi. Fait, oui. Mais est-ce que Mbappé, il n'est pas là, justement, à un virage, à un tournant où il doit finalement s'y adapter?
Aujourd'hui, il est surtout dans une impasse. Je suis incapable de te définir le joueur Kylian Mbappé aujourd'hui.
Justement, donc on y est.
Et ça, c'est un problème, parce que, évidemment, il pourra toujours capitaliser sur le fait que c'est un assassin devant le but, parce qu'il a encore des stats qui sont éloquentes. Mais par contre, sur le joueur, je suis incapable de te définir le joueur. C'est un joueur qui a la croisée des chemins, comme tu l'as dit. Est-ce que vaut mieux le replacer dans l'axe? Est-ce qu'il faut qu'il reste sur le côté gauche? Mais en même temps, sur le côté gauche, il fait pas nécessairement beaucoup d'appels. C'est très difficile de définir le joueur Kylian Mbappé, parce que il y a quelque chose d'incohérent dans le fait que on n'arrive pas à définir le joueur, mais le joueur reste quand même compétitif jusqu'à un certain point.
Indispensable, non?
C'est indispensable. Indispensable. Et pour revenir sur ce que disait Anthony, je fais, d'accord, il reçoit pas de bons ballons, mais Kylian Mbappé définit, conditionne les mouvements de ses coéquipiers.
D'accord avec toi, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi. Excuse-moi, c'est parce que finalement, j'ai l'impression que le fait qu'il se dise qu'il ne sera pas capable de recevoir un bon ballon dans l'espace, comme le faisait à l'époque un Messi ou un Neymar ou d'autres joueurs, même qui sont en confiance, du coup, il se dit, un Berratti par exemple, il se dit, je vais peut-être la recevoir dans les pieds, moi je suis sûr que je vais la prendre sur moi, et après, à moi de faire la différence. Et là, le problème, c'est qu'en effet, à côté de ça, j'ai l'impression qu'aussi, physiquement, il est moins capable de faire la différence. Et forcément, jouer tout seul aujourd'hui.
C'est sûr que l'aspect physique, notamment sur sa qualité fondamentale, qui est la vitesse, c'est quelque chose qui est important. J'ai un ami Eric que je salue qui m'envoie une stat comme quoi il est même pas dans les 6 joueurs les plus rapides de l'Euro et même en France en Ligue 1.
Alors que c'était l'un des plus rapides il y a encore un ou deux ans.
Peut-être qu'il a pas eu l'occasion, même si alors c'est un joueur qui va toujours vite. On dit pas qu'il est lent, mais c'était quand même il poussait.
Mais d'où la question, est-ce qu'il doit pas finalement se réinventer finalement quelque part?
Non, mais il pourra pas se réinventer.
D'autres l'ont fait.
Moi je l'ai toujours dit. Après il y a un moment Kylian Mbappé il devait pas s'inspirer de Messi, Ronaldo, je ne sais qui, devait s'inspirer de Thierry Henry dans sa carrière. Parce que Thierry Henry, voilà, il a déjà une carrière extraordinaire. Et en plus, il a été champion du monde tôt comme lui. Il avait les mêmes qualités de vitesse, d'explosivité, voire de finisseur comme lui. Et par contre, il a réussi à devenir un joueur un peu plus collectif en allant dans un choix de club. Mais comme vient de faire Kylian Mbappé, où il allait ne pas être seul pour aller gagner des trophées. Mais aujourd'hui, en équipe de France, on se repose beaucoup trop sur la qualité de vitesse, de percussion. Mais aujourd'hui, on voit que ce soit Dortmund, que ce soit, vous vous rappelez de ce match contre Monaco il y a 2 saisons, où Monaco avait très très bien pris Mbappé à 2-3 au Parc des Princes et il s'était imposé. Et ben, cette équipe et ces joueurs, et ben, aujourd'hui, ils sont de mieux en mieux analysés, ils sont de mieux en mieux contrés.
Merci Anthony d'avoir été avec nous.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Tu reviens quand tu veux. Dans un instant, avis tranché d'Elton Mokolo pour qui battre cette équipe de France est le plus grand défi donné à une équipe dans le foot de sélection. T'as rien que l'intitulé gros, je me dis waouh. Il va nous expliquer
sur une thèse,
antithèse, conclusion, voilà, synthèse. On vous attend au 32-16 avec Elton Mokolo, Kevin Diaz, avec Ricardo Faté et puis supporter du Portugal. On vous attend également à vie tranché dans la foulée à venir à 21h de Kevin Diaz, pour qui Roberto Martinez fait n'importe quoi dans la gestion du cas Cristiano Ronaldo. Vous allez voir qu'au Portugal, ça commence à faire énormément de débats également. On vous fera écouter notamment l'extrait d'une émission de télé, et je peux vous dire que ça envoie. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After, Intégral Euro.
Nicolas Villas.
Avec Elton Mokolo, Ricardo Fati, avec Kevin Diaz. Vous le savez, vendredi 21h à Hambourg, quart de finale de l'Euro entre la France et le Portugal. Un match qui a inspiré un avis tranché à Elton. Jingle.
Quand Serge Aurier, t'as la moutarde qui commence à lui monter au nez et qui commence à rentrer justement dans cette idée, on va commencer à mettre des coups, Emerson Aller fait.
Et comme écrit d'ailleurs Seb sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, tout de suite à venir, thèse, antithèse, barthèse, bien sûr. Alors Elton, pour toi, battre l'équipe de France, c'est le plus gros défi du football de sélection aujourd'hui.
Exactement, j'en suis convaincu, et cet avis tranché m'a été inspiré par Kevin De Bruyne, parce que j'ai écouté Kevin De Bruyne dans Zone Mix.
En mode vénère après le match, après l'élimination.
En mode vénère, il a repassé tout le monde pour l'hiver. Il a surtout avancé l'idée que, en gros, la compo a été dessinée pour justement laisser le ballon à l'équipe de France. Et moi, ça m'a quand même étonné parce que, au final, t'avais quand même beaucoup d'offensifs du côté de la Belgique. Et en fait, ça traduit une certaine crainte, une certaine peur des adversaires par rapport à l'équipe de France. Parce que, aujourd'hui, en 2024, je suis convaincu que, il y a le fait de jouer un match de Coupe du Monde, un match d'Euro. Et il y a surtout le fait de jouer un match de Coupe du Monde, un match d'Euro face à l'équipe de France. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et moi, j'en veux pour preuve ce qu'ont fait les Pays-Bas, ce qu'ont fait l'Autriche et ce qu'a fait récemment la Belgique. L'Autriche, c'est bien simple. C'est 6 tirs face à l'équipe de France, son plus faible total de la compétition. Les Pays-Bas, c'est 8 tirs face à l'équipe de France, son plus faible total de la compétition.
On va se régaler aujourd'hui.
La Belgique, c'est 5 tirs, son plus faible total en compétition officielle depuis 1990. Voilà ce que peut inspirer l'équipe de France, c'est cette crainte, c'est cette idée que
Ricky Elton.
Opta Elton.
Voilà ce que peut inspirer l'équipe de France, c'est cette idée que à mesure où les minutes, les secondes défilent, à chaque fois, ça favorise l'équipe de France parce que à un moment donné, ils vont faire la différence et qu'en match éliminatoire, c'est très difficile de les prendre de revers. D'ailleurs, les faits sont têtus. Les deux dernières éliminations de l'équipe de France, c'est au tir au but contre la Suisse et contre l'Argentine. À chaque fois en Coupe du Monde. Et la dernière défaite.
Ce qui n'est même pas comptabilisé d'ailleurs comme une défaite.
Ce qui est même pas comptabilisé. Ce qui est même pas comptabilisé.
C'est une élimination, mais.
Et la dernière défaite de l'équipe de France en 90 minutes sur un tournoi éliminatoire, d'ailleurs, c'est pour la symbolique qu'on va fêter demain, c'était le 4 juillet 2014 face à l'Allemagne. Voilà ce que représente l'équipe de France, cette capacité justement à rentrer dans le crâne de l'adversaire. Et moi, c'est pour ça que je suis convaincu que l'équipe de France sur l'Euro 2024, quoi qu'on en dise, est l'équipe la plus compétitive de cette compétition, la plus compétitive de cet Euro, parce que à mesure où ils vont avancer à chaque tour, eh ben moi j'aurais le sentiment que l'équipe de France va se rapprocher de la victoire et que l'équipe en face, l'équipe adverse, va se dire qu'à chaque fois qu'ils vont affronter l'équipe de France, tu auras un double défi. Passer un tour et battre l'équipe de France. Ce sont deux choses qui sont très difficiles et c'est pour ça que pour moi, battre l'équipe de France, c'est le plus gros défi du football de sélection.
Et alors, moi, je vais même aller plus loin que toi. Je vais dire, c'est battre l'équipe de France de Didier Deschamps. Je suis allé mater les stats. Sachez que demain, ce sera le 150e match de Deschamps à la tête de l'équipe de France. 98 victoires pour l'instant. 30 nuls, 21 défaites. Et là où c'est impressionnant, c'est dans les phases finales Euro-Coupe du Monde. En 19 matchs de Coupe du Monde, il compte 2 défaites. En 15 matchs de phase finale de l'Euro, c'est une défaite et c'est en prolongation 2016 en finale contre le Portugal.
C'est surtout 12 victoires en match éliminatoire.
Il y a
un total qui est extraordinaire. Extraordinaire.
Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je disais que cette équipe de France, elle fait peur. Mais je rajouterais que le plus gros défi des adversaires de l'équipe de France, c'est surtout de ne pas perdre dans les 90 premières minutes. Parce que l'équipe de France ne s'est jamais qualifiée sur toute la période dont tu as parlé. Après les 90 premières minutes, c'est-à-dire qu'ils ont toujours soit perdu en prolongation face au Portugal, soit au pénalty, comme tu l'as dit, face à la Suisse et face à l'Argentine. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de France qui fait peur. C'est une équipe de France, par contre, qui n'est pas imbattable ou inéliminable. C'est une équipe qui est bien sûr sûre de sa force. Sa force, elle est défensive. C'est aussi pour ça qu'ils vont très loin. C'est parce qu'ils proposent pas grand-chose, je le pense sincèrement. Et aujourd'hui. Par contre, ils ont une telle capacité à avoir des talents, à avoir aussi un manager quand même qui manage très bien son groupe, qu'en effet, c'est très très difficile et que face à ce genre d'équipe, comme le disait Ricardo, quand tu joues face à ce genre d'équipe, que ce soit dans un tournoi ou dans un championnat, eh ben, tu sais que c'est comme quand tu joues contre l'Atlético Madrid, vaut mieux pas qu'ils t'en mettent un parce que sinon t'es mort. Et donc, quand tu joues avec cette crainte et cette peur, ben, c'est très très difficile de se lâcher pour les adversaires, que ce soit la Belgique, que ce soit les Pays-Bas. Et ce genre d'équipe, ce sont toujours des équipes quand même qui souvent ne marquent pas en début de match, par exemple. Parce que si tu marques un but à l'équipe de France, là, elle doit sortir et là, elle peut être en difficulté. Mais comme l'équipe de France joue de façon très solide, c'est souvent dans les derniers tiers des matchs qu'elle arrive à faire la différence parce que soit il y a une faille, soit il y a un tir contré, soit il y a un pénalty, soit il y a quelque chose qui fait que... Mais en tout cas... C'est vrai que j'aimerais pas être un adversaire et jouer contre la France.
Et c'est pour ça que je suis inquiet, notamment pour le Portugal, parce que l'équipe qui arrivera à battre l'équipe de France, ça sera une équipe qui sera capable de jouer un match indépendamment de ce que peut faire l'équipe de France. C'est une nuance, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que, en gros, si t'es conditionné par l'idée que l'équipe de France, à tout moment, peut te mettre le but via Kylian Mbappé, via Antoine Griezmann, pour moi, t'as déjà perdu le match. Mais
le plan de jeu des Pays-Bas, par exemple, contre la France, il était clair.
Il était cohérent.
Exactement. Il était clair.
Bah oui.
Et je sais pas s'il était cohérent parce qu'il a pas trop plu. Mais en tout cas, il a pas trop plu là-bas, mais il était clair, laisser le ballon à l'équipe de France. Ils voulaient laisser le ballon à l'équipe
comme
de France
la Belgique.
Parce qu'ils savent
que c'est pas que dans deux jours, c'est ce qu'on aura, mais...
Je dis pas que c'est...
Non, mais je pense
que le Portugal peut aussi laisser le ballon, ils sont pas plus bêtes que les autres, ils voient bien que l'équipe de France avec le ballon...
Mais ça veut dire que l'autre, il doit révolutionner son 11, tu vois, il a pas... Aujourd'hui, l'équipe, sur les équipes qu'il aligne ces derniers temps, c'est plutôt une équipe joueuse qu'on a... Mais j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, pour moi... La façon de jouer du Portugal, c'est du pain béni pour l'équipe de France, surtout celle qui va mettre en place.
On s'est tous dit pendant Portugal-Slovénie, quand Sesko a 2-3 fois accéléré Pep, même si c'est une légende du foot, hein, il a plus ses jambes même pas de 30 ans. Donc
41,
on s'est tous dit que si c'était Mbappé en face, ça allait faire mal.
Ouais.
D'ailleurs, Nico, moi j'ai une question pour toi. Toi, le portugais, enfin un peu le connaisseur, est-ce que tu penses que la stratégie du Portugal, ce serait pas justement d'aller au tir au but après ce qu'on a vu au tour précédent? Non, c'est une question sérieuse, hein, c'est vraiment qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'ils vont peut-être baisser un peu la rythme,
physique,
voilà, partir non, ou à contrario, aller à fond et puis pour jouer la victoire.
Sincèrement, vu ce que, bon, on va en reparler après plus longuement, mais vu ce que Roberto Martinez s'est mangé après le match contre la Slovénie, voir le match d'avant contre la Géorgie, même s'il avait fait tourner, à savoir possession stérile, pas de mouvement, etc., il pourra pas se permettre de pas être dominateur et protagoniste avec les joueurs qu'il a. Je pense que si les Portugais se font sortir et qu'en plus ils ont relaissé le jeu à l'adversaire, là personne va capter, alors que il est venu avec des grands discours. Alors après, surtout les supporters belges, ils en témoigneront mieux que nous puisqu'ils l'ont subi plus longtemps, mais ils vont dire entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un gap. Mais il peut pas venir avec des grands discours où nous on est une équipe joueuse, on fait partie des candidats pour la victoire finale et dire bah non, là c'est la France, on va leur laisser le ballon et jouer en contre avec les joueurs qu'il a à dispo, c'est pas possible. Je vois pas comment tu peux laisser le ballon quand t'as Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, même Palinha qui est un joueur athlétique mais hyper technique, etc. Raphaël Dianke qui est un joueur de percussion mais
et latéraux offensif.
Voilà, et en plus, enfin je sais pas, j'ai du mal à croire ça. Mais et t'en penses quoi de la vie d'Elton, alors t'es d'accord ou pas? Tu penses que le plus gros défi aujourd'hui c'est de taper l'équipe de France pour une dans le foot de sélection?
Bah le plus gros défi.
Même cette équipe de France là, parce que la question elle est là aussi.
C'est de ne pas perdre simplement. C'est ce que je te disais Nico, c'est de les emmener le plus loin possible. Les prendre à l'usure, d'être aussi, donc par définition, solide et espérer des tirs au but ou les prolongations, comme l'a fait la Suisse, comme l'a fait aussi
l'Argentine, en menant 2-0 sur une finale de Coupe du Monde.
Et ce que justement peut faire le Portugal avec leur gardien.
Parce que pour moi, on sous-estime quelque chose qui est très important, c'est la dimension psychologique. La dimension psychologique incarnée par l'équipe de France, c'est cette idée qu'on est sur un match d'usure. C'est un match vraiment contre la montre où l'équipe de France, quand bien même ils sont dépassés, quand bien même ils peuvent être menés au score, ils auront toujours en eux cette capacité de revenir. Et ça, pour l'adversaire, intégrer cette donnée, c'est pas forcément évident.
Je vous le rappelle, un supporter du Portugal, on vous attend en 32-16 avant la vie tranchée de Kevin Diaz, pour qui Roberto Martinez fait n'importe quoi dans la gestion de Cristiano Ronaldo. Je vous donne juste une info qui concerne ce France-Portugal de vendredi, ce quart de finale de l'Euro. L'arbitre de la rencontre sera Michael Oliver, l'arbitre anglais de 39 ans, alors qui officiera pour la quatrième fois dans cet Euro. Ça a été l'arbitre d'Espagne-Croatie, 3-0 pour la Roja, de Slovaquie-Ukraine, l'Ukraine avait gagné 2-1, et du Allemagne-Danemark, où le Danemark s'était incliné 2-0. Le quatrième arbitre sera l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde 2022, à savoir le Polonais Simon Marcignac. Je donne 2-3 stats concernant Michael Oliver. Souvent on dit les arbitres anglais laissent beaucoup jouer, etc. C'est l'un des arbitres en PL qui donne le plus de cartons, par exemple, qui siffle le plus de foot également.
Tonton Fingirl,
voilà. Michael Oliver, il a la dégaine.
Ouais, il a été dans plusieurs polémiques là récemment, par rapport à des faits de jeu où il aurait pu mieux faire. Donc par rapport à ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Ouais.
C'est vrai que je dis pour les deux équipes.
Notre producteur Jamie Brown me le rappelle, le Allemagne-Danemark, c'était les histoires de l'assistance vidéo, etc. Donc,
ouais, c'est ça.
Effectivement.
Le fameux talon slash orteil qui dépasse.
Après, lui, là-dessus, il n'a plus que le règlement, j'ai envie de te dire.
Bien sûr, bien sûr.
C'est vrai que c'est sûr. Allez, on vous attend avec Kevin Diaz, avec Elton Mokolo, avec Ricardo Fati. Roberto Martinez fait n'importe quoi dans la gestion de Cristiano Ronaldo, supporter de Ronaldo du Portugal. De qui vous voulez, on vous attend au 32-16. A tout de suite sur RMC.